Alain Marchal, Olivier Truchot et les Grandes Gueules.
Les GG, les Grandes Gueules sur RMC en direct. Tous les jours, 11h-14h, rendez-vous incontournable de la liberté d'expression. Un petit coucou à quelqu'un qu'on connaît bien dans les GG, dans les Grandes Gueules. C'est le dessinateur Gérard, notre ami Gérard, qui fait tous les jours, vous savez, les caricatures des GG, les caricatures de la Grande Gueule de 13h. Et il est passé nous voir aujourd'hui, il nous a remis quelques caricatures encore, l'ami Gérard. Alors chaque GG a eu la sienne. Il est fort!
Il est très fort.
Gérard, sacré coup de plume, Gérard.
Ah oui, extraordinaire. Non,
franchement, il est bon.
Fais voir la tienne, Karim.
Elle est bonne.
Ah, il y a celle de Sophie.
Moi, j'adore celle de Claire. De Claire au petit aussi. Je trouve qu'elle est.
Sophie, elle, on parle pas des absents parce que c'est un peu dur.
Non, pourquoi? Elle est très bien.
Tu as pas filé
celle de Sophie. Elle est là, la mienne.
Sophie,
elle est
terrible. C'est pas très radiophonique votre truc. Non, pas du tout. Là, tout le monde est
zappé. On est la seule émission de radio à parler de caricatures.
Si tu étais attentif, Daniel, j'ai dit que ces caricatures, elles étaient tous les jours sur Internet. Et sur notre site internet et sur le blog des GG. Donc à voir.
Sophie, elle est extraordinaire, hein. C'est Betty Boop coupée avec Cruella.
C'est parce qu'il s'est inspiré, inspiré d'Astérix.
Fais gaffe à ce que tu dis, hein. Attention.
Je l'adore, tout le monde le sait.
Et il lui donne.
T'écoute.
Et Gérard a donné un petit côté personnage d'Astérix, notamment Falbala à Sophie de Menton. 12h35 tout à l'heure, si vous avez envie de partir à la montagne cet été, une semaine de vacances, eh bien écoutez bien les GG. Si vous répondez à la zéribinette du jour, c'est vous qui êtes l'heureux du jour de ce mercredi pour partir en vacances. Toute l'actualité politique, la France de Nicolas. Patrick Battendier va venir nous raconter ses souvenirs de Barbouze. Mais d'abord, le procès d'un prof gifleur.
J'ai donné une gifle, j'étais coupable. Et en fait, on s'aperçoit que non, quand on écoute un peu tout ce qui se passe autour de nous, tout ce qui est dans le monde enseignant, tous les gens qui m'ont envoyé ces milliers de courriers, le vivent au quotidien. Alors, pour eux, je veux que ce soit public et qu'il y ait quelque chose de fait.
Il voulait ce procès pour attirer la tension, le professeur gifleur du nord de la
France.
Alors,
rappel des faits rapides, nous sommes à Berlaymont dans le Nord, il y a 5 mois, le 28 janvier. Monsieur Laboureur, c'est bien un nom de prof de techno, pousse contre une porte, puis gifle un élève de 11 ans qui refuse de ranger sa table au fond de la classe. Après que le collégien lui traitait bien sûr de connard en le regardant dans les yeux. Le père du mineur est gendarme. Il vient au collège, dépose plainte, ce qui entraîne le placement en garde à vue du prof pendant 24 heures. Monsieur Laboureur dit qu'il restait dans son rôle d'enseignant du début à la fin, donc il ne comprend pas pourquoi. Et c'est pour ça qu'il a refusé la procédure du plaidé coupable. Il voulait un procès pour pouvoir s'expliquer devant tout le monde sur son geste. Procès public donc entre Monsieur Laboureur et cet élève.
Alors Monsieur l'instituteur Sylvain Grandserre.
Écoute, hein, on s'est déjà exprimé sur cette affaire. Vous aviez été surpris que je ne fasse pas preuve de corporatisme à l'égard d'un collègue dont je ne soutiens absolument pas le geste. Pour moi, c'est une tentative de blanchiment d'un geste vraiment regrettable. Je rappelle juste les faits. Hein, c'est lui et lui seul qui malheureusement a créé la situation. On n'est pas du tout dans le cas qu'on aurait pu imaginer d'un enfant insupportable, véritable tête à claque. C'est le cas de le dire, qu'aurait poussé à bout un gentil prof. C'est le prof qui a créé la situation de tension. C'est lui qui a fait dégénérer. C'est lui qui a créé cette violence. Alors, c'est quand même un collègue qui mesure 1m90 pour 100 kilos face à un petit haut de 6e.
C'est le collégien qui l'a traité de connard.
Tout à fait. Après qu'on lui ait balancé ses affaires par terre, après qu'on l'ait déjà plaqué contre le mur. Bon, écoute, moi je crois qu'à l'heure où on se demande si on a trop ou pas cette prof, moi je dirais qu'on manque d'éducateurs.
Donc pour toi, il n'y a pas photo, monsieur Laboureur est coupable.
Alors d'abord, il est complètement coupable, effectivement. Et puis, je pense que sa tentative de rachat, en essayant, et il a réussi avec une porte-pétition fortement signée, il a réussi à embrigader des syndicats derrière lui pour le soutenir, avec une confusion. Il essaye de se faire passer pour la victime, alors que malheureusement, il est responsable. On connaît des gens comme ça. Donc je suis désolé de le dire aussi brutalement, mais pour moi, il y a malheureusement pas de soutien possible pour ce collègue. Maintenant, bien entendu, il n'a pas non plus sa place en prison, il n'avait pas non plus sa place en garde à vue.
Est-ce qu'il a encore sa place à l'éducation nationale?
Écoute, faut en tout cas qu'il repasse peut-être par une formation que nous n'avons pas. Là, allez, défendons-le un petit peu. Il n'y a pas de formation d'enseignants pour gérer les situations de conflit, pour gérer les relations avec les parents. Tout le monde bidouille, bredouille, et on voit les résultats au bout aussi. C'est vrai.
Ah oui, tu termines par quelque chose qui est paradoxal. Il doit passer par une formation que l'on n'a pas. Donc, et on sent quand même un malaise qui ne fait que grandir aujourd'hui au sein de l'éducation nationale, parce que le métier d'enseignant est de plus en plus compliqué, difficile, parce que les familles ne fonctionnent plus comme elles fonctionnaient, parce que les parents parents n'exercent peut-être plus leurs prérogatives comme on pourrait l'espérer, parce que les enfants sont un peu plus dissipés, voire se permettent des choses qu'on ne se permettait pas. Alors ça fait effectivement vieux guerrier que de dire ça, mais les choses ont évolué. Et le système semble figé, lui. Et je crois que aujourd'hui, ce procès doit révéler ce malaise, plus que de pointer effectivement la responsabilité du prof, qui pour moi, naturellement, n'a pas giflé un gamin. Je le dis tel que je le pense. Je veux dire, donc, j'ai des minots, ils sont à l'école, et aucun parent n'est à l'abri d'une faute d'un de ses enfants. Néanmoins, je n'accepterai pas qu'on gifle un de mes enfants. On me le sanctionne, on me l'exclut, on me convoque, on fait tout ce qu'on veut, mais on ne me gifle pas mon enfant, parce que moi, je ne le gifle pas. Donc, je veux dire, à un moment donné, on ne va pas faire ce que les parents ne se permettent pas de faire. Donc, et je crois qu'on doit avancer dans ce procès pour trouver plus un terrain d'entente, une manière de fonctionner qui ne doit plus opposer les parents aux profs. Moi, je suis exacerbé quand je vois des parents qui viennent régler le compte de profs parce qu'ils estiment que la décision qui a été prise à l'égard de leurs enfants n'est pas bonne. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête d'opposer les profs et les parents. Il faut qu'on avance ensemble dans l'intérêt du gamin. Tout le monde doit être gagnant dans cette affaire.
Mais moi, pour une fois, contrairement à Karim, je ne serais pas d'accord avec lui sur le fait que si un de mes enfants avait pris une tarte et un coup de pied aux fesses, à condition qu'il l'ait mérité et que ça ait été exceptionnel, je ne me serais pas fâché. Et je pense qu'à la limite,
ils avaient
peut-être... sûrement pas. À mon avis, ils avaient peut-être intérêt à se taire, parce que je ne dis pas que je leur ai foutu un coup de pied aux fesses ou une tarte. À mon avis, je crois que tous les deux, j'en ai deux. Dans leur vie, je pense qu'ils ont dû prendre peut-être une fois un coup de pied aux fesses, mais vraiment, c'est le coup de pied réflexe, coup de pied aux fesses qui fait pas mal, évidemment, et peut-être une tarte, mais pas une tarte violente. Dans leur vie, c'est à peu près tout ce qu'ils ont dû prendre, je pense, en tout cas, venant de ma part. Moi, j'ai reçu une tarte et un coup de pied aux fesses, je crois, dans ma vie, quand j'étais tout jeune, où je me la jouais un peu, je me la pétais un peu, d'autant que j'étais bon élève en maths, et je crois que c'est le prof de maths, je crois pas, je suis sûr, c'est le seul qui me l'ait donné, je me l'ai jamais donné, et franchement, je l'avais mérité. Et ben, il y a rien de plus formateur. C'est mon opinion. Mais en même temps, il faut dire gare aux abus. Parce que j'ai connu un prof d'anglais au collège qui, lui, méthode anglaise, à la fin de chaque cours, il prenait en enfilade 10 ou 15 mecs qui n'avaient pas fait leur devoir, qui avaient un peu parlé pendant le cours, et il leur a foutu des tartes. Si bien qu'un beau jour, c'était en troisième, vous voyez, il y avait des mômes qui étaient là, qui étaient un peu âgés, ils étaient vraiment limite, qui étaient un peu voyous déjà, et ils l'ont enroulé dans les rideaux de cinéma noir qui servaient lors des projections, et ils l'ont bastonné. Bon, ok. Alors,
mais tu rigoles ce que tu dis,
quand c'est des abus.
Non, mais
oui,
tu rigoles ce que tu dis, à la limite, je suis quasiment pas contre, je peux comprendre, je m'insurgerai pas.
Oui.
Mais tu dis, à condition que ce soit mérité.
Et attention,
là, il va falloir
abus.
Que tu arrives à me démontrer comment tu fais pour savoir si c'est mérité ou pas. Quand tu n'es pas là. Non, mais oui, mais surtout, tu le sais. Je sais pas. Tu es une mouche, tu es un broyard, je sais pas comment tu fais. Mmh. Et deux, tu dis, à condition qu'il n'y ait pas d'abus. Tu mets deux préalables qui sont ingérables.
Mais si c'est gérable.
Pas vérifiable.
Mais bien sûr que, mais si c'est vérifiable, mon cher Karim. Je vais te dire, parce que précisément, cet enseignant, j'ai lu un peu, il semblerait que d'abord, mais attention, parlons sous réserve.
Mais tu vois,
il était sous l'emprise. Non, c'est la presse qui l'a dit. Alors, je rapporte la presse. Alors, en disant, attention, parce que la presse peut aussi se tromper. Voilà.
Et
je suis bien obligé de m'appuyer sur les articles.
Il y a eu deux versions, justement.
Où semble-t-il, ce monsieur avait, semble-t-il, une certaine était un peu enclin à la consommation, etc.
Ah bah c'est le Nord, c'est bienvenu chez les ch'tis.
Non, mais non, ne généralisons pas. Mais il semblerait que ce type, donc, était quelque part un récidiviste, mon cher Karim. Donc, il y a des moyens de savoir. Nous savons tous. Et moi qui étais
enseignant. Un récidiviste, c'est quelqu'un qui est déjà sanctionné.
Moi qui étais enseignant.
L'a-t-il déjà été?
Un multiréitérant. Alors, ne jouons pas sur les mots garis.
C'est
dire, c'est que les collègues, les élèves savent parfaitement, les profs qui font excès, qui font un abus, qui abusent de leur autorité et de leur pouvoir, et ils sont connus.
Est-ce qu'on peut se mettre
d'accord sur une chose?
Est-ce qu'on peut quand même se mettre d'accord sur une chose? C'est quand même qu'on est dans un drôle de monde où un prof est placé en garde à vue 24 heures quand même, parce qu'effectivement il a mis une gifle, alors on peut la condamner à gifle.
C'est le fils d'un gendarme.
Placé en garde à vue 24 heures, c'est quand même, ça me semble aberrant.
Ridicule.
Comme c'est aberrant ce procès.
Je veux dire,
on va juger quoi? La justice a autre chose à faire que de juger la gifle qu'a donnée à un prof. Ça pouvait pas se régler au sein de l'établissement scolaire avec les parents, avec le monde.
C'est le fils d'un gendarme et que c'est le gendarme qui prend la plainte.
Alors, écoute, c'est le prof qui a cherché la médiatisation.
Mais
malheureusement, alors qu'il y a des tas de cas où c'est le prof qui a agressé, là, malheureusement, je suis désolé pour lui.
Oui, mais la garde à vue, c'est pas lui qui l'a choisi aussi. Dès le départ, c'est n'importe quoi.
Il y a un manque de formation. L'éducation nationale, je suis désolé de le dire, est aussi une grande muette sur ces affaires-là, sur l'alcoolisme, la violence. Il y a des gens qui font une carrière entière avec des casseroles derrière eux qui font pourtant un boucan
devient fou. Et puis, bah, il y a peut-être aussi des choses à inventer en termes de médiation, de rencontres, de rendez-vous, etc., etc. Mais en tout cas, on peut pas justifier la violence parce que le rôle d'éducateur, justement, c'est de sursoir à la violence. Parce qu'on est avec des élèves qui parfois ne connaissent que ça. Et il y a des enfants avec lesquels jamais on pose les choses. Jamais on dit, bah, écoute, tu me fatigues, mais on va s'asseoir, on va parler calmement. Au lieu de t'en mettre une, toi, j'ai très envie de t'en mettre une, mais je vais t'expliquer pourquoi je vais pas le faire. Je veux dire, est-ce qu'il y a, oui ou non, devoir d'exemplarité du personnel de l'éducation nationale?
Tu vois, on a deux réactions contrastées par SMS. On me dit, je trouve honteux qu'un enseignant se trouve devant un tribunal parce qu'un élève lui a manqué de respect. J'aurais fait la même chose, écrit Quentin par SMS. Et puis un autre SMS, et si les parents faisaient un peu plus leur travail d'éducation, peut-être qu'aujourd'hui, on n'en arriverait pas là, me dit-on aussi. Midi 20, lui, il en est arrivé là à raconter son passé de barbouze. Allez-y, on vous couvre. C'est Patrick Battendier. Un barbouze au service de l'État. Souvenir à raconter tout de suite dans les GG.
RMC, Alain Marchal, Olivier Truchot et les Grandes Gueules.
Souvenir d'un barbouze avec nous sur RMC dans les Grandes Gueules. Patrick Battendier, bonjour.
Bonjour.
Allez-y, on vous couvre. C'est le titre, un barbouze au service de l'État.
Oui.
C'est aux éditions Panama, un livre écrit en collaboration avec Jean-Philippe Bouchard. Alors Patrick Battendier, né en 1960, barbouze patenté de la DST, 25 années passées au service de la France, c'est ce que vous écrivez, 22 comme gendarme et près de 3 comme agent de la direction de la sûreté du territoire.
Tout à fait.
DST.
Alors vous avez un beau CV, effectivement pendant 22 ans vous êtes gendarme, ensuite vous basculez dans le privé, toujours dans le renseignement, mais vous avez été utilisé par la DST, on va y revenir. Vous êtes aussi sous le coup d'une inculpation, d'une mise en examen, vous avez fait de la prison, vous devez être envoyé en correctionnel, ça fait beaucoup sur le CV ça.
C'est pas mal pour un seul homme, oui, effectivement.
Et alors ce bouquin, c'est le bouquin de la rédemption?
C'est nullement le bouquin de la rédemption, c'est un bouquin parce que effectivement je crois que, comme ici autour de toute cette table, je pense que personne n'aime les anonymes. Moi non plus, j'aime pas les anonymes. Et j'aime bien que les gens prennent leurs responsabilités. Moi, je les ai prises. J'ai pris les miennes. Je les ai prises avec un certain honneur. D'autres ne bronchent pas pour le moment, ne disent rien là-dessus. Ils m'ont effectivement, on va dire, commandé pendant 3 ans. Ben, j'attends qu'ils parlent maintenant. J'attends également que la justice parle et me dise pourquoi ces gens-là n'ont pas été mis en examen alors que tout est affiché dans le dossier judiciaire, notamment dans les écoutes téléphoniques et dans les auditions de témoins de tous ces gens de la DST. Donc, j'attends effectivement qu'on réponde maintenant à tout cela. J'ai pris mes responsabilités.
Alors, simplement pour résumer, Patrick Battendier, qu'a-t-il fait? Il a travaillé pour ce qu'on appelle les cadors, les épées, les meilleurs du secteur, l'américain Kroll,
Tout à fait, pour
le français Geos.
Tout à fait.
Et derrière, il y avait en même temps la DST2 qui vous demandait en fait d'enquêter sur des relevés bancaires, sur des personnalités, où vous travailliez pour des personnalités, vous alliez à la pêche aux relevés téléphoniques, aux casiers judiciaires. Et puis en même temps, en fait, vous étiez quoi? Agent double, vous travailliez pour les uns et pour les autres.
On est dans un monde maintenant où effectivement, avec cette concurrence exacerbée, eh bien, l'intelligence économique a pris tout son rôle, tout son effet. Elle se doit d'exister, elle doit être dans toute interrogation stratégique de la part d'un grand groupe. Sauf qu'à des moments donnés, en matière d'intelligence économique, il faut certaines informations. Ces informations sont dites noires, c'est le mauvais côté. Hein.
Oui.
On peut l'appeler après intelligence offensive ou ce qu'on veut, pour être tout à fait soft. Mais en fait, elles existent. Et à ce moment-là, on vient chercher des gens comme moi pour aller chercher des renseignements là où ils sont, c'est-à-dire dans les différents fichiers de l'administration, chez les opérateurs téléphoniques ou à l'intérieur des banques.
C'est ce qu'on appelle la tricoche.
C'est ce qu'on peut appeler la tricoche, mais en sachant quand même que la tricoche, c'est plus un terme qui définit un fonctionnaire qui est en état de fonctionnaire et qui vend des renseignements sous le manteau, comme on le dit. Pour moi, c'est tout à fait autre chose.
Qu'on comprend bien, parce que par exemple, la société Kroll vous emploie.
Américaine.
Et notamment, vous avez travaillé sur la mission Enzo. Laurence Parizeau, aujourd'hui président du MEDEF, était alors PDG d'une société Optimum SA, et soupçonné des vols de matériel au sein de son entreprise, et donc a fait mandater Kroll pour mener une mission de surveillance. Vous avez participé à cette mission.
Tout à fait.
Comment vous faites dans ce cas-là? Vous placez des micros, écoutes téléphoniques?
Je veux dire, il faut savoir ce qu'on veut. Où on pense qu'effectivement on constate qu'il y a des vols dans une entreprise. À ce moment-là, où on va à la gendarmerie, à la police, on commence par déposer plainte. Déjà, c'est la première des choses à faire. C'est le droit de n'importe quel citoyen, c'est même le devoir de n'importe quel citoyen. Ensuite, on se demande si on doit faire sécuriser l'entreprise. Et à ce moment-là, c'est très simple. On a un expert, j'en ai un devant moi. On fait placer des caméras à l'intérieur de l'entreprise avec l'accord du CE, du comité d'entreprise. Ou alors on met un maître chien et puis à ce moment-là, on s'imagine que le danger vient de l'extérieur. On est bien d'accord. Dans le cas de cette mission Enzo, il m'était, moi, confié par la société Crawl la mission suivante, qui était en toute confidentialité d'être planqué à l'extérieur de l'entreprise, d'accord, et de voir ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise. On n'est plus dans la même démarche. On est là dans une démarche d'investigation. Alors qu'on s'appelle Madame Parisot, Monsieur Bolloré ou autre, lorsqu'on veut, en fait, on choisit la stratégie de défense de son
entreprise. Mais attendez, c'est là, vous me faites un discours, parce que vous enquêtez sur les salariés, hein, à leur insu, pour savoir qui vole, etc.
Je réponds simplement à ce qui m'est demandé par Crawl.
Oui, j'ai bien compris. D'accord. Mais c'est-à-dire que il y a des victimes dans cette histoire, quand même. Parce qu'il y a peut-être le voleur parmi ceux qui sont écoutés, mais il y a aussi surtout des gens qui n'ont rien à voir et qui tout d'un coup on s'introduit dans leur vie privée, etc. Mmh. C'est ça aussi votre boulot.
C'est effectivement ça aussi, ouais.
C'est effectivement ça. Elle est où là alors?
Ben, la DST, elle est à l'autre bout de la chaîne. C'est-à-dire que la DST, elle, ce qu'elle veut savoir, c'est quelles sont les missions que je fais pour une société Crawl ou pour une société Geos.
Mission impossible, parce que, à parcourir votre roman, enfin, votre livre, pardon, c'est surtout pas un roman, c'est un témoignage,
C'est surtout pas des histoires.
Mais voyez, mon lapsus est révélateur, parce que c'est vrai que quand je l'ai parcouru tout à l'heure, on se dit, mais c'est pas vrai, j'ai déjà vu ça quelque part, mais oui, c'est mission impossible, c'est-à-dire, on vous couvre. Mais par contre, si jamais vous avez un pépin, on vous connaît pas. Et je crois que c'est ça le
mais vous savez, c'est je crois la manière de faire de beaucoup ce genre d'agence et pourquoi pas aussi de renseignements publics. Je veux dire, les renseignements publics, bon, ils viennent me voir, ils me mettent à marcher dans les mains. Je l'accepte ou j'accepte pas, et se trouve que je l'accepte.
Mais en quelque sorte, vous trahissez aussi la société qui vous emploie, la société Crawl, parce que vous travaillez en même temps pour la DST.
Non, mais attendez, je veux dire, où on fait de l'intelligence économique pure, franche. Tout à fait clair. Et à ce moment-là, on n'a pas à dire un tel trahit un tel. À partir du moment où on vient me chercher pour avoir des missions, des renseignements très précis sur un sujet, c'est qu'on sait qu'on va être dans le black. Et à ce moment-là, on n'a pas le droit de se plaindre après. Moi, je me suis pas plaint, j'ai pris mes responsabilités. Maintenant, je mets à jour les choses parce que je pense que tout le monde doit prendre ses responsabilités dans cette affaire, que la justice doit effectivement, à un moment donné quand même, faire le règlement qu'elle doit faire. Depuis juin 2007, l'instruction est terminée. Donc effectivement, il y a un moment donné...
Ça tarde là, on prend du temps.
Ben, bizarrement, ça tarde. Je ne sais pas si c'est bizarrement ou pas bizarrement. Moi, tout ce que je vois, c'est tout ce que je peux constater en fait, c'est que depuis juin 2007, l'instruction est terminée. Que depuis juin 2007, il n'y a toujours pas de règlement qui est pris par le parquet de Versailles. J'attends. Déjà pour voir quelles sont les responsabilités qui vont être relevées.
Ok, bon, Patrick Baptandier, il n'a pas besoin de moi pour me faire son avocat. Il a déjà des avocats, mais moi, je ne peux que souscrire à ce qu'il dit. Et je connais tellement bien ce métier, puisque je le pratique depuis près de 30 ans maintenant. La question qu'on peut se poser, c'est comment se fait-il que des organismes, des cabinets comme le sien, comme le mien, comme d'autres, existent et prolifèrent? C'est quand même bien le signe, quelque part, qu'il y a une défaillance, une démission du service public, des autorités, de tutelle, dans des conflits qui sont devenus maintenant... Une guerre économique, j'ai écrit un bouquin sur le sujet qui a fait autorité. Il y a des litiges, des contentieux, des permanents, et dans lesquels les services sont totalement absents, sauf pour des entreprises, et encore, puisque j'ai travaillé aussi bien pour la Société Européenne de Propulsion qui fabrique les moteurs d'Ariane, là où la DGSE, la DST, s'était révélée incompétente, et moi j'ai donné les réponses. Okay. Donc, mais en général, les services des GSE, DST, etc., RG accessoirement, sont focalisés sur les entreprises liées directement à la défense, okay, de la nation, à la défense de l'État. Ouais, mais il y a tellement de secteurs économiques, connexes, annexes, etc. Donc, et là, ils sont absents. Donc c'est pour ça que ces cabinets existent. Ce qu'il faut, je crois, bien dire au public qui nous écoute, de ne pas se laisser instrumentaliser. C'est-à-dire que je suis absolument convaincu que Patrick Baptandier, comme moi, comme tous ceux qui font ce métier, la sécurité, la liberté individuelle, si je puis dire, la vie privée des gens, mais on s'en tape comme dans l'an 40. Il faut qu'ils le sachent. D'ailleurs, 99,99% des gens du public ne sont pas concernés parce que franchement, ils n'intéressent personne.
Oui, Daniel,
tant pis pour leur ego. Je vais te répondre. Donc, ce sont des affaires industrielles et commerciales. Ok, toujours.
Oui, est-ce que c'est le rôle de la DST de demander à Patrick lorsqu'il enquêtait
lorsqu'il enquêtait
sur un patron de presse, sur un chef d'entreprise, sur un responsable syndical, mais c'est est-ce que la DST a besoin de demander à Patrick un compte rendu? On n'est pas dans la sécurité du territoire, on est dans l'intrusion de la vie privée, de leader d'opinion.
Je vais te donner deux anecdotes. La Corée du Nord, un, où je suis sollicité, c'est quand même pas neutre. Deux, le CEA, c'est pas neutre pour un cabinet américain. Mais moi, je te parle de la France.
La Corée du Nord, excuse-moi, c'est contre l'exemple.
Mais non, mais c'est en France. C'est sur des missions en France.
Je vais retenir votre paradoxe. Et donc... Effectivement, c'est tout à fait paradoxal. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'une des deux missions essentielles de la DST et effectivement de protéger le capital économique français. D'accord ? Dans cet ordre-là, ensuite, vous avez des subdivisions, dont une qui m'a pris en charge, qui est en fait celle qui doit surveiller les boîtes d'intelligence économique et les agents privés de recherche, d'accord ? Ils ont également une mission de police judiciaire, eux, qui est que si jamais il est révélé des malversations, etc., on doit faire fermer ces boîtes. Combien ont-ils fait fermer de boîtes jusqu'à présent par rapport à leur mission de police judiciaire ?
Mais ils en ont
pratiquement
besoin.
Zéro.
Ils en ont besoin.
Je vais vous expliquer. Ils en ont besoin pourquoi ? Moi, chez Kroll, je suis celui qui peut leur donner toutes les informations, du début à la fin, de comment ça se passe, de comment est organisé, du turnover qui se passe chez Kroll, les numéros de portable de tous ces gens, etc. C'était pas que sur les clients de Kroll.
Non, c'était ensuite, la manière dont Kroll fonctionne.
Bien sûr. Ensuite, ils ont besoin de savoir quelles sont les missions,
les cibles
de ces sociétés. Quelles sont les cibles.
Ils en font aussi des infos que vous leur donnez. Ils en font quoi de ces infos que vous donnez sur.
Mais écoutez, ils en font de l'analyse. Ils sont là pour ça. Ils analysent ces informations.
Ils sont là.
Ensuite, ils les traitent et ensuite, écoutez, le paradoxe est encore plus grand. C'est qu'en fait, moi, quand j'arrive avec une mission et que je dis voilà, Kroll me confie telle mission, ils disent, mais il n'y a pas de problème. Je vais vous donner, moi, tous les renseignements que la DST va pouvoir vous donner. À partir du moment où on n'est pas saisi du même dossier ou à partir du moment où l'actualité fait pas rage sur tel type de truc. Et ils me donnent tout. Et tout est confirmé dans les écoutes téléphoniques.
J'ai été longtemps sous-traitant de Kroll pendant des années. J'ai cessé le jour où ils ont essayé de me manipuler à deux ou trois reprises. Okay, et là, j'ai sollicité, moi, de mon initiative... Même si je connais évidemment beaucoup de monde, mais ce sont des amis personnels, c'est pas avec l'institution que j'ai à l'intérieur de tous ces services. À un moment, je dis attention, là, on est en train de me faire sortir de ma cour. On est en train d'essayer de me manipuler pour obtenir des informations qui contreviennent aux intérêts de l'État. Et je prends l'exemple du CA, je parlerai pas de la Corée du Nord parce que c'est un peu sensible, mais sur le CA, quand, et là, il s'agit de la France, commissariat à l'énergie atomique, quand j'apprends et qu'on me consulte pour savoir quelle est la validité, la pérennité et la propriété intellectuelle de brevets appartenant au nucléaire français qui sont en train de se négocier sur le territoire des États-Unis, je suis bien obligé d'en référer aux services français en disant attention, voilà une mission qui m'a été confiée et j'ai la réponse, mais quelle réponse je donne ? Est-ce que je la donne tel in extenso ou est-ce qu'on doit y apporter
d'accord.
des modifications ?
D'accord, mais tu as pas répondu à ma question. Moi, je comprends pas pourquoi on a surveillé Besançon dernièrement, pourquoi Bernard Thibault retrouve un boîtier électronique dans sa voiture. Et si, régulièrement, dans l'actualité, on s'aperçoit que les écoutes téléphoniques, ça existe en France et que, semble-t-il, la DST est derrière tout ça.
Karim.
C'est quand même...
Non, elle est pas derrière tout.
Une partie des choses, en tout cas.
On a deux spécialistes là, donc de ces sujets. Moi, j'ai un peu travaillé au ministère de l'Intérieur, donc au cabinet d'un ministre, et j'ai pris connaissance à ce moment-là du fonctionnement un petit peu de certains services. Il y a deux types de services. Il y a les services, j'allais dire officiels hein, en matière de police, de sécurité publique et autres, qui ont un fonctionnement très hiérarchisé, donc où les choses sont clairement établies. Mmh. Et puis on a des services qui sont des services dits de renseignement, où là, les choses sont quand même beaucoup plus complexe qu'on ne le pense. C'est-à-dire qu'on a des missions qui sont parfois doubles missions, on a des ordres qui se contredisent, on a des tutelles qui sont un peu ambiguës. Moi, quand j'entends parler aujourd'hui d'intervention dans le monde dans les affaires industrielles et commerciales, on ne peut pas non plus occulter le fait qu'il y ait aussi des interventions politiques de temps en temps. Et je ne suis pas surpris de ce que nous dit Monsieur Patrick. Je ne suis pas surpris de ce qu'il nous dit. Ce qui me surprend, ce qui m'interroge, c'est qu'il en connaissait les règles du jeu. C'est que quand on est là-dedans, Patrick, on sait qu'on peut être lâché.
Non, mais attendez.
À tout moment.
Attendez,
on sait quel risque on prend. On sait, l'exposition, quelque part qui est la vôtre. Et comment aujourd'hui vous semblez, à travers ce bouquin, être surpris d'être lâché?
Non, je
pense pas. C'est partie des règles du jeu.
Mais je ne pense pas qu'il faille être aussi simple que ça. Je pense qu'en France, quand même, on doit défendre aussi une certaine règle de démocratie. Il y a des institutions. Toutes ces institutions doivent avoir le même code pénal. Tous les gens doivent être jugés sur des mêmes bases. Je sais pas pourquoi. Moi et certains de mes camarades gendarmes aussi, qui quelquefois m'ont donné l'immatriculation d'une voiture, etc. On est mis en examen pour des choses qu'on a faites. On en retient les responsabilités. Pourquoi ces gens de la DST ne le feraient pas alors qu'ils m'ont donné la quasi-totalité de tous les renseignements
afin que je puisse... ne respecte pas les règles du jeu.
Non, mais attendez, mais qu'est-ce que ça veut dire que
dès le départ, puisque vous nous dites vous-même que...
Non, mais ça veut dire... Alors,
sont servis de vous. Non, mais je vais vous dire, vous allez accepter de faire des missions que moi je qualifie de pas déontologique. Donc aujourd'hui, c'est paradoxal que vous demandiez de l'éthique, de l'égalité de traitement.
Les boîtes d'intelligence économique, les boîtes d'agences privées de recherche, et ça, vous savez de quoi je parle, ont tous une règle d'éthique. Absolument. Ont tous une règle déontologique. Ouais. C'est une hypocrisie totale.
C'est du bidon.
Il a raison. Et qu'il y ait des tordus chez nous, il y en a. Oui, mais il faut pas généraliser.
Mais attendez. Ah. Tout le monde a une règle déontologique. Personne ne la respecte. Et maintenant, vous avez un service d'État.
Oui.
Mais oui, non, mais
personne ne la respecte, il est en train de dire.
Mais
l'État lui-même, Karim. La DGSE, la DST, les services, tu crois qu'ils obtiennent des informations
de l'État? Mais c'est le contraire. Mais quand on est dedans, on en connaît les règles du jeu. Pourquoi Patrick fait comme s'il tombait des nus? Il est surpris que tu tombes aujourd'hui.
Je ne tombe pas des nus, je fais simplement que d'informer.
Il fait 23 ans qu'il est là-dedans.
Le public le plus large possible sur ce que peuvent être ces magouilles.
C'est ça l'intérêt du témoignage de Patrick.
On va pas me demander maintenant de fermer ma gueule, ou je reste anonyme et à ce moment-là je viens pas dans votre émission, ou alors je ne reste pas anonyme, je fais le bouquin et j'explique. Et tant pis si tous les gens sont dans la merde, tout le monde fait comme moi.
Qu'est-ce qui vous a valu d'être mis en examen? Qu'est-ce qui a déclenché le fait que tout le monde vous lâche et que vous soyez mis en examen?
Une chose très simple en fait, il y a un agent privé de recherche qui m'a demandé l'identification d'une immatriculation. Ce qu'il ne savait pas, c'est que lui-même a été mis sur écoute dans le cadre d'une autre affaire pour une disparition d'enfant, donc quelque chose de grave. Ce qu'il pouvait pas savoir, c'est qu'en fait les premiers qui sont mis sur écoute là, ce sont les parents. Donc je vous la fais courte, lui il est mis sur écoute, il me demande effectivement d'identifier une voiture que j'ai fait identifier par qui, d'après vous?
La gendarmerie.
La DST, merci. Qui va me donner l'élément? Moi, je vais lui donner l'élément donc une demi-heure après, d'accord? Puisque la DST me dit toujours, mais Patrick, enfin, ici c'est un ministère, parlez librement, nos ordinateurs ne sont pas vides. Attendez, c'est quand même assez hallucinant, mais c'est ça. Je lui redonne, et à ce moment-là, il y a une autre information qui sera ouverte pour ces faits de corruption, recel de corruption, d'atteinte aux fichiers de l'État, etc. Mmh. Ce que je veux simplement dire, moi, c'est que le premier agent privé de recherche en ce moment en France, qui n'a jamais recours à un pote, gendarme, flic, à une connaissance, etc., ça n'existe pas, sinon il ne serait pas sur le marché.
Ça n'existe pas.
Pour la bonne et simple raison que sinon il ne serait pas crédible, il n'aurait aucune clientèle. Mmh. Il faut savoir ça. Après qu'on légalise les choses. Moi, je suis tout à fait en accord, par exemple, avec ce que dit Alio Marie en ce moment. La ministre de l'Intérieur dit simplement, bah écoutez, moi c'est très bien, ce que je vais faire, je vais responsabiliser maintenant, au cas par cas, chaque individu. Là, plus question de se cacher derrière une étiquette,
bien sûr,
derrière l'image d'une boîte, derrière l'image d'un crawl, ou derrière l'image d'une DST, chacun sera responsable individuellement. On ne peut que saluer cela.
Mais aux États-Unis, c'est ce qu'ils font, et nous on va se couper les ailes, parce que à travers l'histoire de Patrick Bagdantier, on va réglementer encore plus, et qu'est-ce qui se passe? Tous les cabinets étrangers qui sont d'ailleurs nichés, planqués, aujourd'hui dans les cabinets d'audit.
Je veux bien qu'on protège les Patrick. Et etc. Mais ça pose pas.
Je ne veux pas être protégé. J'ai pris mes responsabilités.
Ça répond pas à la question quand même. Qu'en 2008, dans un pays démocratique, on pratique des écoutes téléphoniques, de la surveillance sur des personnalités. Ça semble choquer personne.
Les écoutes téléphoniques,
c'est pas de mon fait. J'en ai jamais fait de ma vie.
Vous utilisez les écoutes téléphoniques de la DST. Enfin, c'est.
Mais pas du tout. J'ai été placé sur écoute téléphonique par la justice. C'est d'ailleurs là qu'il y a toutes les preuves de l'implication de la DST et de mes clients, qui soient crawl ou géo. Voilà, l'histoire, elle est là.
Vous révélez quelque chose. Vous révélez quelque chose dont on se doutait un peu, mais qui fait quand même froid dans le dos. Il y a des particuliers concernés par. Il faut savoir que vous racontez qu'il y a pas mal de gendarmes
Attendez,
je vais finir, puis vous allez corriger si je me suis trompé. On a donc des gendarmes qui, une fois qu'ils prennent leur retraite, travaillent pour des assurances privées, des polices d'assurance, et qui tapent dans les fichiers de la gendarmerie nationale pour.
Mais ça se fait depuis des dizaines d'années.
Oui, ça prouve bien que ça, c'est même le particulier, il n'y a pas besoin d'être connu pour être surveillé, fiché, étiqueté, suivi. Et ça, je suis pas sûr effectivement que tout le monde soit
courant.
Je vais vous demander juste une chose et puis vous répondrez peut-être aux deux choses. Vous êtes menacé ou pas? Parce que
Bien sûr que non, je ne suis pas menacé. Mais non, pas du tout. Attendez, on n'est pas non plus dans le délire, dans le délire.
C'est important de le dire.
Je veux dire, on n'y est pas pourquoi? Parce que la DST connaît sa responsabilité dans cette affaire. Mmh. Elle est dans les écoutes téléphoniques. Encore une fois, les preuves que j'amène, les preuves qui sont dans ce livre, elles sont dans le dossier judiciaire. Je n'invente rien. Moi, ce que je demande simplement à monsieur Nicolas Sarkozy, qui est notre président, qui a dit « Je veux que les institutions soient complètement transparentes. Je veux une démocratie irréprochable. » Alors oui, ça c'est un cas d'espèce. Répondons à ça. Faisons venir le ministre de l'Intérieur, faisons venir le ministre de la Justice, discutons. Bâtondier, il paiera. Mais il ne paiera pas seul.
Vous avez fait 4 mois de détention. S'il est menacé, ils ne vont pas lui dire.
Moi, ce que je trouve
extraordinaire. Daniel, il peut y avoir des chiens empoisonnés, il peut y avoir des fracturations de porte d'entrée.
Ce que je trouve extraordinaire dans cette affaire et dans ce débat, c'est que quand Bercy paye des indics, qu'on appelle des aviseurs, c'est tellement plus élégant, depuis des années, depuis
des jours. Mais il y a toujours des termes très édulcorés.
Tout à fait. Qui exploite un fichier qui a été volé au Liechtenstein, qui a été négocié, ok? personne ne hurle à la délation, c'est extraordinaire, là personne ne s'offusque. Or, lorsqu'il s'agit de conflits majeurs à l'intérieur de groupes importants privés, et 99% de nos dossiers, c'est ça.
Je
c'est
cite ça. De Bolloré, etc., mais bien des sûr, gens qui font des stratégies de déstabilisation complète sur leurs concurrents. Bien sûr. Qui oui, font paraître dans la presse.
Oui, mais Daniel, ne dit rien. Ce qui est choquant, c'est le mélange des fichiers publics de la DST avec les fichiers privés.
Oui, okay.
Et puis les informations vont dans un sens, dans un autre. On est dans un état
Olivier,
de droit. Et c'est quand même impressionnant de savoir que la DST aujourd'hui
nous a dit
que
l'affaire Bruno Gatchot de Canal+, vous vous en souvenez peut-être, avec un patron d'RG qui était à la tête de la sécurité de Canal, ça a défrayé la chronique. Là, effectivement, on était dans une affaire sordide privée parce qu'à l'époque, il y avait une des plus grandes dames de France, sinon la plus grande dame de France, qui voulait la peau de Gatchot. OK? Bon, c'est comme ça que ça s'est passé, avec des coups tordus. Alors là, effectivement, c'est une affaire privée et je ne souscris pas, et moi je n'aurais pas accepté cette mission, ok? Bon, parce qu'ils étaient jusqu'à aller lui coller de la drogue dans le coffre de sa bagnole. Mais il faut faire attention, parce que je vais vous dire, la manipulation, c'est quoi les politiques? On leur fait peur, des gens comme nous. On leur fait peur parce que nous, ils n'ont qu'une angoisse. C'est qu'on tombe sur leurs petits comptes secrets, les listings Clearstream et les autres, etc., et leur turpitude. C'est ça qui leur fait peur. Donc ils voudraient bien qu'on n'existe pas, ou qu'on soit totalement contrôlé et embrigadé
dans leur
chapelle ou dans un service.
Si je peux me permettre. Moi, je pense que ces professions sont tout à fait indispensables. Qu'on soit agent privé de recherche ou qu'on soit une boîte d'intelligence économique, c'est ce que vous avez commencé à dire, et je vous rejoins là-dessus, c'est tout à fait indispensable dans une économie de marché, dans une économie de concurrence exacerbée, etc. Mais, s'il vous plaît, ne croyons pas qu'on est dans un monde d'oie blanche, quoi. Hein, ne croyons pas qu'on
c'est
est dans un monde gentil monde où tout le monde se lance un petit pic de temps en temps. C'est une guerre, totale. C'est une guerre totale. Alors je veux bien croire, moi, que la DST est quelque part soit sensible et ait peur. Peur de quoi? Peur que des boîtes comme Kroll, Geos en viennent à avoir une puissance
supérieure à la leur.
Ils ont des moyens supérieurs. En tout cas, qui puissent rivaliser avec eux.
C'est déjà le cas. Ils
pourquoi
sont
parce que ces gens viennent déjà de leur milieu. Ils viennent de la DGSE, ils viennent
bien
de
sûr.
La DST.
Et ensuite, c'est de l'argent privé qui est là. Et donc,
et après, c'est l'argent sans qui commande tout ce monde-là. C'est l'argent.
Oui, dans une affaire ce que je supporte pas, c'est que sous couvert de missions, j'allais dire un peu secrètes et autres, d'officines privées ou publiques, on puisse aujourd'hui enquêter, investiguer sur des gens. Donc, en allant au plus près de leur vie privée. Je peux pas le supporter.
Mais vous avez raison.
Je trouve qu'à un moment donné, et j'ai pas lu le bouquin, mais si ça, c'est pas dénoncé en termes de pratique, donc je dis qu'on passe à côté aussi de l'essentiel. D'accord.
Non, encore une fois.
Mettez au clair les choses et tout. C'est la guerre, c'est machin, c'est pas le monde des bisounours. On n'est pas dupes. On n'est pas naïfs, on le sait. Aujourd'hui, on a retenu ça. Mais retenez quand même une chose, c'est que vous avez fait des trucs qui n'étaient pas nets. Vous l'avez fait. Mais assumez le fait qu'il ne fasse. Qu'il faille aujourd'hui changer ces pratiques-là, assumer l'autre.
C'est ce qu'il demande.
Très bien. Mais alors,
mais
aujourd'hui.
Par contre, il ne faut pas la loi de l'omerta. L'omerta, c'est pour les voyous, c'est pas fait pour des gens comme monsieur, comme d'autres. Il y a des pratiques qui sont tout à fait honnêtes, et à ce moment-là, moi, j'invite toutes ces institutions à prendre la parole. Et pour une fois, à s'exprimer sur le fait. Pour l'instant, c'est la merde.
L'omerta, c'est pour les voyous, mais au plus haut niveau, on peut se demander si les pratiques de nos institutions, c'est pas la pratique des voyous.
On vous couvre un barbouze au service de l'État. C'était chaud dans les GG parce que c'est chaud ce qu'il y a dans le bouquin. Lisez-le, c'est aux éditions Panama.
Les grandes gueules sur RMC.
Alors, c'est marrant parce que Darius, il prend ça un peu au deuxième degré en réagissant sur Internet. Il me dit, chouette, j'aimais déjà Géo Paquet, Francis Lagnoz, Zébio Foscarelli, des barbouzes de cinéma. Mais alors là, un vrai pas pour de rire. Ça impressionne pas mal. En tout cas, respect pour Monsieur Battendier, me dit Darius sur Internet. Et qui a fait son boulot. Et comme souvent, les tireurs de ficelle se débobinent dans cette affaire. Courage, Patrick. Moustapha nous dit, j'ai une petite larme en passant à Patrick. Me fait vraiment de la peine. Peut-être qu'il redevienne policier, il y a moins de risques. Écrit Moustapha. Oulou me dit, lui, depuis la série, le gorille n'a rien changé. Rien n'a changé. Le barbouze est et sera toujours lâché quand ça va mal.
Mais regardez l'hypocrisie de ce pays, quand même, qui est extraordinaire, la France. Là, vous avez un article, c'est pas vieux, c'est il y a quelques 8 jours, où on dit en toutes lettres, mais ce que je sais depuis très longtemps, c'est que même les juges, les magistrats, dans le cadre de procédures et d'informations judiciaires, font appel à des privés, y compris pour des écoutes téléphoniques, qui sous-traitent dans des cabinets privés. Et là, vous avez un article qui explique que les juges font appel à des hackers pour casser tous les codes informatiques et faire parler tous les disques durs. Et d'ailleurs, c'est une des activités majeures de Kroll, ce que tout le monde ignore. Et Kroll bosse pour beaucoup de grands groupes français, du CAC 40, y compris pour des ministères. Kroll, c'est fusion-acquisition, sa première activité, et deux, comme par hasard, récupération de données informatiques. Et là, les juges eux-mêmes font appel à des hackers pour faire parler les disques durs. Et à côté de ça, on va emmerder un Patrick Baptandier parce qu'il a sorti deux plaques d'images minéralogiques de bagnole. Mais qu'est-ce que ça? Il faut arrêter de déconner.
Dernière réaction sur Internet, celle de David qui s'interrogeait ce qu'il a écrit ce livre, Patrick, pour protéger sa vie. Est-ce qu'il se sent en danger dans cette affaire? Il nous a répondu tout à l'heure qu'il n'était fort heureusement pas menacé et que lui, s'il a sorti ce bouquin, c'est pour que tout ce genre de scandale
éclate, ils vont pas l'appeler 5 minutes avant. Hein.
Éclate au grand jour, bien sûr.
Alain Marchal, Olivier Touchaud et les Grandes Gueules.
Une semaine de vacances à gagner, une semaine de vacances à la montagne grâce à RMC, grâce aux résidences Lagrange et grâce au GG. Karim, vas-y, qui a dit ?
Qui a dit, si on n'a pas beaucoup de médailles au JO, Bernard Laporte est bien capable de me demander en mariage.
Chiche. Ah, ça fera un beau couple. Hein.
Il n'y a pas de femme autour de la table, donc je suis obligé de la lire, la Zérébine.
Alors, c'est déjà un couple politique parce qu'ils travaillent ensemble au sein du gouvernement.
Oh, c'est facile. Hein. Qui est la femme la plus proche de Bernard Laporte? Il n'y a pas d'indice supplémentaire à vous donner. Allez-y, 32-16, et c'est là les vacances à la montagne pour vous.
RMC, les Grandes Gueules. La France de Nicolas.
J'ai pas menti. J'ai dit ce que j'allais faire, mais je le ferai.
Eh bien, dans la France de Nicolas, il l'a fait. Il a envoyé à tous les parlementaires une mallette, le chef de l'État. Une petite mallette avant que la France ne prenne la présidence de l'Union européenne. Alors c'est une mallette qu'ils ont ouverte, très jolie, avec tout un nécessaire, un petit des accessoires dedans. Mais du coup, bon nombre de députés de droite comme de gauche d'ailleurs n'ont pas bien compris l'utilité de ce cadeau.
Alors dans chaque mallette, il y avait, qui était de couleur noire, un crayon, un bloc-notes, un porte-serviette et une cravate gris clair. Eh, c'est une fausse note parce que Nicolas Sarkozy ne le sait pas, mais il y a quelques femmes quand même à l'Assemblée nationale. Donc c'est vrai qu'elles ont été surprises de voir que le président n'avait pas pensé à elles et pensait qu'une cravate pour tous les députés, ça suffisait. Donc on a vu effectivement des députés de droite et de gauche, députés femmes, avec la cravate autour du cou et avec le sourire, parce qu'ils ont pris ça avec sourire. Mais quand même, il y en a d'autres qui s'interrogent. Bon, c'est bien d'envoyer cette mallette, mais combien ça coûte? Est-ce qu'on a besoin de dépenser cet argent? Nadine Morano, au départ, pensait que c'était un canular. Et puis quand même, après, on l'a expliqué que c'était son boss qui avait envoyé cette mallette, donc elle a trouvé ça très bien. Elle a même dit porter une cravate, même pour une femme, ça peut être sympa. Qu'est-ce que ça fait pas dire?
Elle est capable de tout, on le sait.
Pour l'anecdote, sachez que la mallette et le contenu sont griffés Philippe Stark, qui est l'un des designers numéro 1 dans le monde. Alors, beaucoup de députés ont dit effectivement, alors il y a déjà la campagne pour pouvoir d'achat, on dépense 4 millions d'euros, et maintenant la mallette, est-ce qu'on n'a pas autre chose à faire de ce pognon, hein, Daniel?
Bah, c'est du grand n'importe quoi, vraiment totalement. D'ailleurs, toutes ces grands messes là, qui s'annoncent là, dans le cadre de la présidence française à l'Europe, franchement, je trouve ça scandaleux. Ça coûte une fortune alors qu'on cherche du pognon partout.
Ça va mobiliser beaucoup de policiers.
Mais moi, je trouve ça scandaleux et monstrueux, d'autant qu'on sait tous que rien ne sort jamais de ces grands messes et de ces colloques, okay, comme la FAO, récemment encore ce congrès mondial sur la faim, mais qu'on arrête avec ça, c'est se foutre de la gueule du monde, d'autant qu'on le voit bien, même si on essaie de passer au forceps, on voit bien qu'il y a quand même une grande majorité de citoyens dans cette Europe qui rejettent l'Europe.
Sylvain Grancet, instituteur, un peu de raison là-dedans.
Oui, je suis toujours un petit peu surpris des fautes de communication par des gens qui vraiment ont la tête dedans du matin au soir. Je veux dire, franchement.
Payé très cher pour ça.
Bah, je vais te dire franchement, c'est pas pour les défendre, mais je vous dis, il y a un moment, j'ai l'impression, toi tout à l'heure, on parlait des espèces de monde parallèle, des secrets et tout. J'ai l'impression qu'il y a des fois un monde parallèle politique où on ne sait plus ce qu'est la vraie vie des gens. Alors, j'ai pas la prétention de la connaître, mais toi, au moins, en tant qu'institut, j'ai une légitimité, c'est que je croise de tout, socialement, et j'ai l'impression qu'après, les gens, ils sont en périphérie, ils vivent ailleurs. Quand tu leur dis que tu connais des Français en difficulté, ils croient que c'est quelqu'un qui a du mal à payer son chalet en Suisse, tu vois. Et vraiment, et quand je vois ces fautes de com, je me dis, mais comment est-ce possible, tu vois, mais même l'histoire des spots publicitaires à la télé,
on
va dire aux gens, on va faire preuve de pédagogie.
C'est une mallette d'information pour les députés, comme si les députés ne savaient pas qu'au 1er juillet,
avec la valise nucléaire qui déclenche le feu.
Carrément. Ça se merde. Non, moi, on va me dire que je suis démagogue.
Mais oui, tu es démagogue.
Mais c'est pas grave. J'ai l'habitude de cette manière. Donc, quand on n'a pas d'argument, soit on nous traite de populiste, soit de démagogue.
Voilà,
mais ça,
absolument.
C'est pour ceux qui n'ont pas d'argument. Voilà. Quand on parle, il y a un instant de dérembourser des médicaments sous prétexte qu'on n'ait pas de pognon. Et quand tu mets donc, dans la même balance, parce qu'excusez-moi, c'est la même caisse qui paye, que vous vouliez ou non, ça s'appelle l'État.
Et
le contribuable. Et donc, du coup, quand vous mettez dans la même balance, donc une propagande publicitaire qui nous coûte 4 millions d'euros, une mallette dont on pourrait bien se passer à l'attention association de députés qu'on va informer, mais qui ont déjà trois attachés parlementaires, donc qui peuvent être très bien informés, donc parce qu'ils ont des machines politiques autour d'eux, je me dis que finalement, les économies, je sais où il faut en faire, moi.
Ben voilà.
Mais est-ce qu'on est tous d'accord pour ça ?
Ben nous, oui, autour de cette table, oui. On est nombreux.
Tiens, je vous tiens au courant d'une date en même temps, parce que je sais que peut-être certains d'entre vous l'ont oublié. La date de sortie du livre de Ségolène Royal, le 8 juillet, on connaît le titre « Si la gauche veut des idées ». C'est le titre du livre de Ségolène Royal, sortira le 8 juillet. C'est un livre d'entretien avec Alain Touraine, hein, le sociologue Alain Touraine, où ils échangent.
C'est-à-dire que si la gauche veut des idées, c'est Ségolène Royal pour
Il faut qu'elle achète, il faut acheter son livre.
C'est extraordinaire. D'accord.
Mais ce qui est amusant, c'est qu'ils sortent tous un livre. Il n'y a jamais eu autant de livres socialistes depuis le début de l'année. Ils sont tous là à dire. Avant tout, ce qui compte, c'est le débat d'idées. Avant les rivalités. Les idées. Est-ce que vous avez entendu une idée neuve de la bouche d'un socialiste depuis un an.
Une idée neuve dans la bouche des socialistes. La dernière idée neuve, ça devait être 87, Michel Rocard. Donc ça fait presque 20 ans.
Alors, il y a quand même une idée neuve. Ils viennent de se convertir pour un certain nombre, pas tous, à l'économie de marché.
Ça, simplement, il y a Sylvain. Il y a le livre s'articulera autour de 5 thèmes: éducation, vivre ensemble, égo et différent. Et la France politique d'aujourd'hui.
Comment 4 tu écris égo?
Merci monsieur Sylvain Grand. C'est la réponse à la Zérivinette.
C'est un propos.
Allez, vas-y.
Qui a dit, si on n'a pas beaucoup de médailles au JO, Bernard Laporte est bien capable de me demander en mariage?
C'est Nicolas qui a la bonne réponse. Bonjour Nicolas.
Bonjour les grandes gueules.
Salut,
bonjour.
Nicolas.
Salut Nicolas.
De qui s'agit-il?
De Roselyne Bachelot.
Félicitations.
Merci beaucoup.
Un week-end avec Roselyne, Nicolas.
Ah, super.
Félicitations. Vous gagnez une semaine de vacances à la montagne, à Montchavin. Une petite station qui est à quelques kilomètres de Bourg-Saint-Maurice, dans la résidence Les Trois Glaciers, avec piscine couverte, chauffée, sauna, hammam, télévision satellite. Bref,
il n'y a pas d'eau.
Et vous aurez le plaisir de rencontrer toute la famille Marshall là-bas, parce que vous savez, donc, ils sont installés là-bas, ils ont pris leur quartier.
Je crois que vous êtes le seul qui n'est pas Marshall.
Je viendrai vous saluer d'ailleurs, voilà, Nicolas, pendant cette semaine de vacances. D'accord. Félicitations, Nicolas. Il y a un t-shirt DGG en bonus pour vous.
N'oubliez pas le GPS quand même.
Restez fidèle à RMC, restez fidèle au GG. Salut Nicolas, bonne journée. Dans un instant, on va parler de la santé encore avec Patrick Perlou, l'urgentiste grande gueule, l'hôpital Saint-Antoine. Il est là, Patrick Perlou, pour revenir sur le déremboursement peut-être de certains médicaments pour les maladies longue durée, parler du plan hôpital.
Oui, il va nous faire encore le coup, on n'est pas prêt pour la canicule. Hein. Mais ça, il le fait chaque année.
C'est son truc.
C'est
son numéro. Ça.
Alors qu'il fait un temps pourri depuis 6 mois, il va nous expliquer qu'il y aura une canicule cet
été. Il paraît qu'il le fait dans un café-théâtre. On n'est pas prêt pour la canicule. Prolongation, Patrick Perlou.